Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, l'Italie débat de la fin de vie et pourrait bientôt tenir un référendum sur le suicide assisté. Depuis le début de l'été, des milliers de bénévoles ont tenté de recueillir un maximum de signatures pour organiser une consultation sur la question. Dans ce pays très catholique, les militants réclament que l'euthanasie, sous certaines conditions, puisse se faire légalement, qu'elle ne soit plus considérée comme un homicide volontaire. Objectif atteint, haut la main. Il leur fallait 500 000 signatures, ils en ont récolté plus d'un million. Cécile Debarge a suivi l'une des soirées de pétition des bénévoles à Palerme.
22h, un samedi soir de septembre. Comme tous les week-ends, la Piazzetta della Canna s'anime. Le public est jeune, l'ambiance festive. Aussi insolite que cela puisse paraître, c'est là que les bénévoles de l'association Luca Coscioni ont décidé de s'installer pour collecter des signatures en faveur de l'euthanasie légale.
Grazie. On parle d'euthanasie légale parce que l'euthanasie illégale existe déjà et ceux qui ont de l'argent s'en vont en Suisse.
Antonella Accetta va droit au but. Très impliquée dans la collecte des signatures, elle fustige l'hypocrisie qui entoure le débat sur la fin de vie des personnes atteintes de maladies graves. Aujourd'hui en Italie, si quelqu'un aide un malade à mettre fin à ses jours, c'est un crime, explique l'avocat Alessio Ruffino, chargé de vérifier l'authenticité des signatures de la pétition.
On vise à éliminer le crime de homicide volontaire, parce que quand quelqu'un décide en son âme et conscience de mettre fin à ses souffrances, il ne faut pas punir la personne qui viendrait lui apporter de l'aide pour cela, parce qu'en fin de compte, c'est ça le problème.
Margherita Federico a entendu parler de cette pétition sur les réseaux sociaux. Émue par certains cas médiatiques de malades italiens contraints de voyager dans d'autres pays européens comme la Suisse pour mettre légalement fin à leurs jours, elle a décidé de s'engager comme bénévole en faveur de la campagne. L'occasion pour elle de rencontrer lors de sa distribution de tracts des malades directement concernés par l'euthanasie légale, comme cette jeune femme de 23 ans atteinte de sclérose en plaques.
Elle me disait « Moi, pour l'instant, je vais bien. Ma maladie est sous contrôle pour le moment grâce aux médicaments. Mais c'est une maladie qui ne peut pas être soignée et elle aura sûrement une évolution galopante au fil des années. » Et c'est vraiment terrible de vivre avec cette angoisse qu'un jour je ne pourrai plus rien faire ou presque et que je ne pourrai pas décider sereinement et librement de mettre fin à mon agonie.
À mesure que la soirée avance, les pétitions se remplissent. Assise derrière la table blanche décorée aux couleurs de l'association, Antonella Accetta vérifie les documents d'identité, consigne soigneusement les informations d'état civil des signataires.
Je m'attendais à cette adhésion parce que la société est décidément plus en avance que les politiques.
Sur sa feuille, les noms s'alignent. À Palerme, plus d'une vingtaine de collectes de signatures ont été organisées, sans compter celles dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes, voire dans les villages de la région. Souvent, la question de l'euthanasie légale y reste encore taboue, en particulier pour des motifs religieux, explique Antonella Accetta.
Dans certaines provinces, nous avons eu des obstacles. À Marineo, par exemple, le prêtre s'en est violemment et brutalement pris, aussi bien à ceux qui organisaient la pétition qu'à ceux qui la signaient.
Lorsqu'elle alpague les passants pour leur proposer de signer la pétition, Veronica a rencontré deux types de réactions hostiles. Celles liées aux croyances religieuses, comme le prêtre de Marineo, mais aussi celles dues à une profonde ignorance sur le sujet.
Ignorance au sens où certains ne savent pas, ne sont même pas conscients du sujet. Tout se mélange entre dernière volonté et euthanasie. Et donc ne pas savoir, souvent ça crée de l'hostilité et ça amène les gens à se mettre en travers de cette proposition.
Pourtant, elle et les autres bénévoles l'assurent. Le soutien à la pétition a été massif et a traversé toutes les classes d'âge, toutes les classes sociales. L'objectif minimal de 500 000 noms pour pouvoir demander un référendum a même été doublé à la fin de la collecte de signatures. Un soulagement, un espoir aussi pour les bénévoles comme la professeure de mathématiques Antonella Accetta.
Je suis sûre que le référendum passera s'il est organisé. Et ensuite, j'espère une loi digne qui permette vraiment à ceux qui ont besoin de faire ce choix terrible et dramatique de pouvoir le faire légalement et en toute sécurité.
Car même si un référendum est organisé, il faudra ensuite que les législateurs s'emparent de la question, rappelle l'avocat Alessio Ruffino.
En Italie, le citoyen citoyen ne peut pas directement proposer de loi si ce n'est à travers des initiatives de consultation populaire. Le référendum serait seulement abrogatoire. Ensuite, le législateur reçoit la demande du citoyen et c'est seulement sur la base de la décision exprimée qu'il doit travailler à une législation.
Le million de signatures recueillies devrait être remis à la Cour de cassation italienne le 8 octobre prochain.
La Suisse est l'un des seuls pays au monde à autoriser l'aide au suicide pour ses citoyens comme pour les étrangers. Elle est admise depuis la fin des années 30. Parfois, malgré tout, cette question très sensible revient sur le devant de la scène, comme avec la requête déposée par une association suisse devant le Conseil d'État pour autoriser un barbiturique utilisé dans l'aide au suicide. Mais le sujet ne fait plus vraiment débat. À Genève, Jérémy Lange.
Seules trois conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier d'une aide au suicide. Il faut être capable de discernement, ne pas être influencé dans son choix et pouvoir s'administrer la dose de poison seul. Les personnes qui choisissent cette voie se tournent généralement vers des associations spécialisées. Toutes n'acceptent pas les demandes venues de l'étranger, mais dans tous les cas, un entretien avec un médecin est nécessaire pour valider le dossier. Alors, il y a bien quelques polémiques, notamment en ce qui concerne le docteur Erika Preissig. Cette figure de l'aide au suicide assistée a échappé de justesse à une condamnation pour homicide parce qu'elle avait accepté la demande d'une personne qui souffrait de troubles psychiques. Dans une autre affaire, un médecin a été condamné pour avoir aidé une patiente en bonne santé à mourir avec son mari qui, lui, était malade. Ces cas sont toutefois assez rares dans une pratique elle-même assez minoritaire. L'an passé, l'association Exit, l'une des plus connues, a par exemple aidé 1282 personnes à se donner la mort. Le suicide assisté représente 1,5% de tous les décès en Suisse. Un chiffre en lente mais constante augmentation, car cela fait longtemps que les Suisses ont accepté l'idée que l'on peut accompagner quelqu'un vers la mort si c'est son choix. Certains souhaiteraient même aller plus loin encore, en autorisant l'aide au suicide aux personnes non malades, une sorte d'interruption volontaire de vieillesse, selon leurs propres mots. Mais là, le sujet est loin de faire l'unanimité.
C'est le casse-tête de la rentrée pour les étudiants, mais plus largement pour tous ceux qui vivent dans une capitale européenne et qui doivent changer de logement. Trouver un toit, si possible à un prix abordable et en bon état. Prix de l'immobilier au plus haut, grave pénurie d'appartements et de maisons à vendre comme à louer. Aux Pays-Bas, la crise du logement ne cesse d'inquiéter et de désespérer même une partie de la population qui est de plus en plus mal logée. C'est un reportage de notre correspondant Antoine Mouton.
Dans le centre-ville de La Haye, non loin du siège du gouvernement, Max, 24 ans, nous montre où il vit.
S'il fallait décrire mon logement, je dirais que c'est un studio. Tout se trouve dans la même pièce, mis à part la petite salle de bain à côté. La cuisine, le lit, tout est au même endroit.
Ce contractuel des autorités sanitaires a mis environ 3 mois avant de trouver ce logement.
C'est un très bel emplacement, mais c'est trop cher pour ce petit espace. Je paye 970 euros pour seulement 24 mètres carrés.
Et la situation de Max est de plus en plus fréquente aux Pays-Bas. Une situation qui exaspère de plus en plus de Néerlandais, désormais prêts à se faire entendre, comme lors de cette récente manifestation pour le logement dans le Westerpark d'Amsterdam. Sur les banderoles des milliers de manifestants présents ici, on peut lire des slogans comme « Marre des marchands de sommeil »,« Se loger est un droit » ou encore « Le libre marché est un échec ». Au milieu d'eux, Oscar, 27 ans, lui, a préféré mettre en avant sa propre situation. « 750 euros, 14 mètres carrés », a-t-il écrit sur sa pancarte.
« Mon propriétaire habite en face de chez moi. Il a 3 logements dans la rue. Et moi, je paye 750 euros par mois. Et encore, j'ai des amis qui trouvent que 750 euros pour 14 mètres carrés, c'est bon marché. Mais pour moi, c'est ridicule. »
Si les amis d'Oscar envient son loyer pourtant exorbitant et sa superficie même réduite, c'est parce qu'à Amsterdam, où il vit, les prix des logements atteignent des sommets. Symbole de cette folie immobilière, dans le centre-ville, un garage de 22 mètres carrés est en ce moment en vente pour la modique somme de 690 000 euros. Oscar est très remonté contre le Premier ministre de droite libérale, Mark Rutte.
Ça, c'est la politique libérale du parti VVD du Premier ministre. Comment peut-on trouver ça bien de complètement libéraliser le marché de l'immobilier alors que des gens ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête?
Parmi les manifestants rassemblés ici, tout le monde ne vit pas la crise du logement de la même façon. Certains, déjà propriétaires, sont assez épargnés, mais ils sont venus afficher leur solidarité envers des proches moins chanceux ou pour, disent-ils, défendre l'avenir de leurs enfants. C'est le cas de Léon, jeune papa de la petite Charlie, 1 an, à moitié endormi dans son porte-bébé.
Sur ma fille, il y a une pancarte où on peut lire « Je ne veux pas vivre toute ma vie chez mon papa ». Je me fais en effet beaucoup de soucis pour son avenir.
En 10 ans de Mark Rutte, Premier ministre, rappellent les manifestants, le nombre de sans-domicile fixe aux Pays-Bas a tout simplement doublé, passant d'environ 20 000 à 40 000 personnes. Sander van der Kraan est le porte-parole du Woon Protest, un mouvement créé récemment et qui a organisé cette première grande manifestation contre le mal logement.
Pendant 30 ans, et en particulier au cours des 10 dernières années sous Mark Rutte, nous avons eu un gouvernement qui a décidé de commercialiser, libéraliser, privatiser nos logements. Des milliards d'euros ont atterri sur le marché. Cela a provoqué un immense pic des prix des logements et ça ne cesse d'augmenter. C'est vraiment une politique délirante, irresponsable et horrible.
Soutenu par des syndicats et plusieurs partis de gauche, le Woon Protest a prévu au cours des prochains mois d'autres rassemblements dans des grandes villes comme Rotterdam et La Haye. Selon lui, la situation est devenue insoutenable alors que le prix moyen d'un logement dans l'ensemble du pays a dépassé cette année les 400 000 euros. Marc Martens est spécialiste du marché néerlandais de l'immobilier. Selon elle, cette crise se profilait depuis longtemps.
La situation a pris une tournure très particulière. Il faut rappeler que nous avons déjà connu une grave crise du logement en 2008. À l'époque, le marché de l'immobilier s'était effondré en raison de la crise financière avec la chute de Lehman Brothers. Ça a mis un certain temps avant d'avoir des répercussions concrètes aux Pays-Bas. Mais les prix avaient ensuite énormément baissé.
La chute des prix de l'immobilier au début des années 2010 aux Pays-Bas avait désespéré une partie des Néerlandais, se retrouvant subitement avec une hypothèque à rembourser beaucoup plus importante que la valeur de leur maison. Puis tout a de nouveau changé.
Tout à coup, en 2015, les prix ont fini par très fortement augmenter. La question était alors, mais que se passe-t-il? Comment est-ce donc possible? Il ne s'était en effet rien passé de particulier sur le marché des maisons à vendre. Il s'est finalement avéré que des investisseurs étaient entrés sur le marché.
Aujourd'hui, Marc Martens se plaide pour une régulation du marché de la vente et de la location face à des investisseurs néerlandais et étrangers de plus en plus nombreux.
Le marché de la location n'est pas régulé et ressemble au Far West. On y trouve de plus en plus de cow-boys qui spéculent, achètent et chassent des locataires de leur logement.
Ces investisseurs, certaines grandes villes du pays envisagent de les repousser au maximum. À partir de janvier prochain, Amsterdam et Utrecht veulent leur interdire l'acquisition de logements sur l'ensemble de leur territoire. Mais selon certains ici aux Pays-Bas, les investisseurs ne sont pas le seul problème. La population augmente chaque année et il manquerait plusieurs centaines de milliers de logements. Régulièrement, le gouvernement promet de stimuler d'ici 2030 la construction d'un million d'habitations supplémentaires. Mais selon ses critiques et opposants, ce délai est bien trop long.
Et en Irlande, la situation ne s'améliore pas du tout. C'était déjà l'un des pires pays d'Europe pour se loger. La crise du Covid n'a rien changé. En 2019, c'était le pays le plus cher selon les chiffres d'Eurostat. En cette rentrée universitaire, les étudiants se retrouvent dans une situation ultra précaire, Emeline Vin.
Des listes d'attente longues de plusieurs centaines de noms, des chambres universitaires à plus de 10 000 euros l'année. Alors que la rentrée est passée, des milliers d'étudiants à travers le pays se retrouvent sans toit pour leur cursus. À Galway, ceux qui trouvent un logement se retrouvent à plusieurs heures de bus de leur faculté. À Waterford, un étudiant sur 10 n'a que des solutions provisoires pour dormir. À Limerick, le syndicat étudiant a même conclu un accord avec les hôtels du coin pour des séjours du dimanche soir au vendredi matin à tarif préférentiel. Des situations qu'on retrouve exacerbées dans la capitale, Dublin, et qui plongent les étudiants dans l'incertitude. des conditions pas vraiment propices à la réussite académique. Trouver à se loger à prix abordable, c'était déjà très compliqué avant la pandémie, mais le téléenseignement a vidé les universités pendant un an et demi. Les étudiants sont rentrés chez leurs parents et les propriétaires ont remis les logements sur le marché, repris depuis par d'autres locataires à long terme. Certaines résidences étudiantes ont également été converties en logements de courte durée. La pénurie générale sur le marché n'arrange rien. Les étudiants réclament au gouvernement des actes, bâtir plus de résidences étudiantes, encadrer davantage les loyers. La semaine dernière, des organisations syndicales ont organisé une veillée devant le Parlement. Des dizaines d'étudiants ont campé en répétant ce slogan « No keys, no degree », pas de clé, pas de diplôme.
Et se loger en Europe, c'est souvent un cauchemar, en particulier pour les étudiants. C'est la chronique d'Alice Roujat. Bonjour Alice.
Bonjour.
Vous étiez étudiante il n'y a pas si longtemps. Alors, bon souvenir ou pas à la recherche de logement ?
Petite anecdote mise en bouche. Pendant mes années étudiantes, j'ai plus vécu avec des souris qu'avec mes colocataires. Et en plein cœur de l'hiver, les murs pouvaient verdir de moisissures. Sur 3 apparts, 2 étaient complètement insalubres. On s'en arrange, hein, mais c'est pas trop confort, donc souvenir mitigé.
Je viens vous croire, Alice. Plus que la vétusté, il y a des étudiants qui ne trouvent carrément pas de logement du tout.
Oui, chaque année, c'est la même galère. Des centaines de milliers d'étudiants européens font leur rentrée universitaire sans savoir où ils dormiront le soir même. Pour protester contre cette triste réalité, en Turquie, tout le mois de septembre, des étudiants stambouliotes se sont retrouvés de nuit pour camper dans des parcs. Des images qui ont ému les habitants, mais qui n'ont pas vraiment permis de débloquer des places dans des logements.
Comment est-ce qu'on explique que les étudiants n'arrivent toujours pas à se loger, Alice ?
Forcément, il y a plusieurs facteurs qui se superposent. Déjà, le prix des loyers, même s'il fluctue selon si on étudie dans une capitale ou en province. À l'heure actuelle, payer un loyer pour un étudiant, ça s'apparente plus à une saignée qu'à une transaction. À Lisbonne, le prix moyen d'un studio, c'est 1000 euros par mois. On parle de studio, hein, avec les toilettes, le lit et les épices dans la même pièce. Et on peut ajouter encore 200 euros pour se loger dans la capitale irlandaise. Autant dire que rares sont les étudiants à pouvoir débourser une somme pareille.
On sait que les recours aux Airbnb, l'incidence du tourisme ont fait grimper les loyers un peu partout.
Oui, c'est vrai. En un an, à Barcelone, le prix des locations a augmenté de 7%. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le problème des résidences universitaires. Sur le papier, c'est très chouette. Un logement près du campus, fonctionnel, meublé et pas cher. Que demander de plus, Juliette ?
Mais je vous le demande, Alice.
Eh ben, des places, voyons. D'après l'association des résidences étudiantes, il faudrait en France 250 000 chambres supplémentaires. C'est pas rien. La problématique est sensiblement la même à l'échelle européenne. Exception faite de l'Estonie, où chaque établissement du supérieur propose des logements en dortoir. Là où c'est le pire, c'est aux Pays-Bas, destination très prisée par les étudiants internationaux, mais où on les accueille pas vraiment à bras ouverts. Sur Internet, les annonces pour des places en colocation ou en studio sont réservées aux Dutch, les locaux parlant néerlandais, et le pays manque de places en résidence universitaire. À Groningen, dans le centre, 600 étudiants étrangers sont actuellement sans logement.
Et en plus des problèmes de logement, il y en a d'autres qui s'ajoutent par répercussion.
Oui, tout à fait. Selon la Fondation Abbé Pierre, un tiers des 15-30 ans européens vivent sous le seuil de pauvreté. Et la pandémie n'a rien arrangé à cela parce que beaucoup de jeunes ont perdu leur job. Quand on paye un loyer hors de prix, on n'a pas très envie de se rajouter des charges. Il n'y a pas de chiffres, mais je connais personnellement plusieurs jeunes qui n'allument pas le chauffage de l'hiver. On appelle ça la pauvreté énergétique.
Et pour pallier cette pauvreté, il existe des aides ?
Il en existe, oui, mais pas partout. En tout cas, il n'y a pas de réglementation européenne dans ce domaine. Mais je pourrais citer les aides pour le logement en France ou l'allocation logement général en Finlande. Mais en fait, la meilleure aide pour la plupart, c'est quand même papa et maman. En Europe, 80% des jeunes vivent chez leurs parents et ils y restent en moyenne jusqu'à 26 ans. En Croatie, ils peuvent y rester jusqu'à 32 ans. Les Européens sont donc détendus, mais on comprend mieux pourquoi maintenant.
Merci Alice Roujat, une chronique qu'on retrouve également sous format vidéo, la bonne nouvelle d'Enter. C'est tous les week-ends à retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook.
Aussi,
évidemment sur RFI.fr. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. L'émission est aussi disponible en podcast sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.